Psaume 57.
Au chef des chantres,
ne détruis pas.
Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions, je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. J'ai le sentiment que dans notre époque moderne, nous avons un rapport à l'écriture qui est bien plus léger que celui de ceux qu'avaient les chrétiens d'il y a seulement quelques décennies. Tous les ans, il y a une semaine du goût. Et dans les écoles, on réapprend aux enfants à manger des légumes. Leur apprendre que la nourriture n'est pas un fast-food permanent. Leur apprendre qu'il y a des goûts, des saveurs. Leur apprendre que le sucre et le sel sont des éléments qui masquent la nourriture fabriquée. On réapprend à goûter. Quelle chose étrange. J'ai le sentiment que l'église d'aujourd'hui est une église qui vit une semaine du goût tous les dimanches. On réapprend aux chrétiens, ou on tente d'apprendre aux chrétiens, le goût de la parole. Est-ce que nous y parvenons? Est-ce que nous donnons vraiment envie à ceux qui rencontrent Christ de se plonger dans l'écriture et de s'en nourrir? J'ai beaucoup aimé le témoignage de Laurence. J'imagine une jeune femme, une jeune fille, cachée sous ses couvertures, avec sa lampe en train de lire la Bible. Waouh, Seigneur, c'est beau ça! Que font les jeunes aujourd'hui? Ils sont sous la couverture, ils ont leur tablette, et puis ils vont sur Internet. Avoir faim de la parole, retrouver le goût de la parole de Dieu aujourd'hui. Avoir le désir de s'y plonger. Nous venons de lire un psaume, et c'est un psaume que j'aime beaucoup, sur lequel je me suis arrêté tous ces derniers jours. Et c'est un psaume qui nous parle d'un événement, ou qui se passe au cours d'un événement. C'est quand David se cache au fond d'une grotte. Il se cache au fond d'une grotte parce qu'il est en fuite devant le roi Saül. Et j'aimerais qu'on s'imprègne de ce contexte. On a un homme qui écrit, certainement, mais qui dit aussi ce psaume, comme une parole désespoir, de plainte, mais aussi de louange et d'adoration. Et nous verrons comment on peut passer de la plainte à la louange. Parce que ce qui arrive à David, c'est ce qui nous arrive à nous aujourd'hui, dans nos vies. Les livres historiques nous rapportent que David entra deux fois dans une caverne pour se cacher devant Saül. La première fois, c'est dans 1 Samuel 22, dans la caverne d'Adullam. La seconde fois, dans la caverne d'En-Gedi, qui était située dans une contrée sauvage, isolée, montagneuse, sur les bords de la mer Morte. Ça vous donne un peu le contexte. Quand on rentre dans une caverne, dans cet environnement défavorable, dans quel état d'esprit pouvons-nous être? Et c'est dans 1 Samuel 24. La plupart des commentateurs disent que ce psaume-là est écrit et dit par David dans le deuxième épisode, 1 Samuel 24, lorsqu'il est dans la caverne d'En-Gedi. Cependant, j'ai beaucoup aimé regarder un petit peu le contexte du livre de Samuel, si je le retrouve, voilà, 1 Samuel 22, qui montre le premier épisode où Samuel le livre de Samuel raconte ce récit de David se réfugiant dans une grotte. Parce qu'en fait, je me disais, ça dit aussi quelque chose de la manière dont il est entouré. Il vit le deuxième épisode dans la grotte d'En-Gedi. Dans 1 Samuel 22, il est dit que David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Toute une bande de gilets jaunes qui s'est rassemblée avec David. On pense que c'était des fidèles, que c'était des hommes convaincus. Non, non, ils étaient là parce qu'ils étaient couverts de dettes, parce qu'ils étaient mécontents de la royauté de Saül, parce que le monde dans lequel ils vivaient était insatisfaisant pour eux et leur famille. Pourquoi me cherchez-vous, dit Jésus à une foule qui l'attendait de l'autre côté du lac. Vous ne me cherchez pas parce que vous croyez en moi, vous me cherchez parce que je vous ai donné du pain et que ce pain vous a nourri. Ces gens qui étaient avec David étaient là pour la même raison. On n'est pas bien. Et David se retrouve avec ces personnes-là dans la grotte d'En-Gedi, cette grotte au milieu des montagnes près de la mer Morte. Et ce psaume 57 est un psaume qui parle de ce David qui est poursuivi, qui est dans la crainte, dans la peur, et qui cherche son secours auprès de Dieu. Hein. Ma fille, qui est là, est venue me voir dans mon bureau tard hier soir, et j'étais en train de continuer à travailler sur ce texte, et je lui ai dit, ce que j'aime dans ce psaume, c'est tout ce qu'il contient. Et je lui ai dit, mais quel est le premier verset pour toi de ce psaume? Alors elle me dit, au début c'est au chef des chants. Hein? Oui, mais le psaume il commence où? Elle me dit, aie pitié de toi, de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Et je dis, ce que je trouve formidable, c'est que justement ce psaume-là ne commence pas par ce verset. Ce psaume-là commence par une introduction, et l'introduction est toujours importante. On fait souvent fi des introductions. Ici, l'introduction, c'est « Au chef des chantres, ne détruit pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. » Vous savez, c'est ce verset-là, il est très important. Parce que toutes les introductions servent à donner une couleur, une orientation au lecteur pour pouvoir s'engager dans ce qui va suivre. Je ne sais pas si vous connaissez ces quelques mots d'un roman très très célèbre d'un homme qui a eu le prix Nobel de littérature il y a longtemps. Et son roman commençait par ces mots. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. Vous connaissez ce roman ? Il y a très longtemps, j'ai écouté un commentaire sur ces quelques mots qui ouvrent le roman d'Albert Camus, L'étranger. Et dans cette petite phrase-là, vous avez tout ce qui va orienter le lecteur pour comprendre comment le personnage principal, qui s'appelle Meursault, va évoluer en fonction de ce qu'il nous dit dans la première phrase. Comment cet homme qui dit « Aujourd'hui, maman est morte », ou peut-être hier, je ne sais pas. Camus nous dit en une phrase comment cet homme est éloigné de lui-même et de ses émotions, comment il est absent de ce monde et comment il va rentrer dans le récit comme un homme qui est dans ce monde, qui pénètre dans le monde sans savoir vraiment quelle est sa place, ce qu'il est, et ce qui va le conduire jusqu'à être condamné à mort. Une introduction, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et les premiers mots de ce psaume, c'est « au chef des chantres ». Alors vous me direz, c'est qu'une indication technique. Là, j'ai envie de dire, c'est que une indication qui concerne Hervé. Au chef des chantres, à celui qui dirige la musique. Hein ? Et en fait, beaucoup de commentateurs aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, reviennent sur cette indication au chef des chantres, qui en hébreu se dit « Lamanat Sehar », une petite phrase, un petit mot, qui est posé sur un grand nombre de psaumes, qu'on traduit par « au chef des chantres », une indication technique, semble-t-il. Mais ce mot qu'on rencontre 56 fois dans la Bible est constamment utilisé dans les psaumes et une seule fois dans le livre d'Habacuc, à la fin, au dernier verset du livre d'Habacuc. Et cette traduction que nous faisons au chef des chantres fait qu'on est en train de dire bah « ça c'est juste une indication technique à caractère liturgique pour dire que celui qui conduit la louange soit attentif à conduire ce psaume-là selon les indications suivantes. Aujourd'hui, on traduit davantage ce mot « Lamanat Sehar » par une autre formule. Ce mot vient en fait des Menat Sahim, qui étaient ceux qui conduisaient les travaux dans le temple. Vous retrouvez ça dans le livre des Chroniques, vous le retrouvez dans plusieurs livres, et c'était ceux qui conduisaient les travaux, conducteurs de travaux. Mais en fait, ces conducteurs de travaux, c'était ceux qui étaient chargés d'appliquer concrètement une vision spirituelle. Jamais les conducteurs de travaux, c'était uniquement des techniciens, des maçons, des ceci, des cela. Non, c'était des hommes qui étaient chargés de conduire spirituellement les œuvres que Dieu leur confiait. Ce qui fait que la traduction qu'on donne maintenant et qui est beaucoup plus juste, me semble-t-il, cette traduction, c'est « ceux qui conduisent vers l'excellence, vers le meilleur. » Conduire vers le meilleur. Ça, c'est le désespoir d'Hervé. Il essaye. Laurence m'a fait une remarque ce matin sur un chœur. J'ai essayé de tenir sur les deux premières... Et j'ai craqué, j'ai repris ma manière de faire habituelle. J'étais rassuré parce que toute l'assemblée faisait comme moi. Et il y avait juste Laurence qui essayait un petit peu de donner le tempo, de conduire vers l'excellence en fonction de ce qui était écrit. Ouais. Ici, le psaume commence par ces mots pour nous conduire vers le meilleur. Un psaume qui commence par pour me conduire, pour te conduire vers le meilleur, vers l'excellence. Et même le mot excellence, les conducteurs qui travaillaient au temple, c'était des hommes qui étaient posés là par Dieu, mis là, placés par Dieu, pour conduire ce qui leur était confié vers l'excellence. Ce psaume a pour introduction pour te conduire vers l'excellence. Est-ce que ce n'est pas important? La parole de Dieu qui est là, qui nous est donnée, pour nous conduire vers l'excellence. C'est la version des Septante qui est la version grecque de l'Ancien Testament qui a été, selon la tradition faite par 70 à 72 sages d'Israël 300 ans avant Jésus-Christ, qui a traduit le mot Menatsear par Telos, qui veut dire la finalité, le but, pour la fin. Ce psaume nous est donné pour que nous atteignions le but pour nous-mêmes. Dieu nous donne cette parole pour que nous allions vers notre but qui est le cœur de Dieu, la présence de Dieu. Dans ce psaume, après cette introduction qu'on peut changer en disant « pour aller vers l'excellence, ne détruis pas ». Alors, beaucoup de tradition nous disent bah ça c'est une indication que donne Hervé parce qu'il nous dit ça se chante sur l'air de tel cantique du 18e siècle. C'est comme ça qu'on a introduit sur Biche de l'horreur. Ne détruis pas. En fait, pour beaucoup de commentateurs juifs et non juifs, aujourd'hui ne détruis pas est présenté comme un sommaire du psaume qui suit. Ne détruis pas. Vous rappelez l'histoire de David dans la grotte d'En-Gedi ? Il est poursuivi par Saül, il se réfugie dans la grotte avec ses mécréants, ses insatisfaits. Une belle image de l'Église d'aujourd'hui. Ne sommes-nous pas des hommes et des femmes qui avons été rachetés ? Qui avons été insatisfaits de ce monde et qui suivons le Christ parce que nous savons qu'auprès de lui se trouve la réponse. Et pourtant, ils se retrouvent dans une grotte. Situation peu enviable. Ils sont au fond de la grotte, dans le noir. Vous imaginez ? Et à ce moment-là, les troupes et l'armée, c'était quelques centaines d'hommes qui étaient avec David, et des milliers d'hommes qui étaient avec Saül, arrivent devant la grotte. Et là, à ce moment-là, Saül fait arrêter son homme et dit « Excusez-moi, j'ai un besoin urgent. » Relisez hein, le passage de 1 Samuel 24. Et il regarde autour de lui « Oh, une grotte !» Il y va et la version, enfin, le texte français dit « Il entra pour se couvrir les pieds. » Alors souvent, quand on lit ça, la plupart des gens se disent « Ouais, il avait froid aux pieds, je sais pas, il se met à l'abri. » Non, non, se couvrir les pieds quand on porte une grande robe, c'est s'accroupir, et que la robe couvre les pieds, et quand on s'accroupit, en général, c'est pour faire ses besoins. Ouais, je sais, c'est trivial, on n'aime pas ce côté non poétique de l'écriture, elle est très concrète, hein. Et vous avez le roi Saül occupé à ses affaires, 300 hommes derrière qui le surveillent, David qui est là, et les hommes qui disent, bah allez, vas-y, là, tu peux y aller, tue-le, tue-le ! Tue-le ! Il est à ta portée ! Prends une épée ! Et dans la tête de David, ce message qu'il a dit tellement de fois, « Je ne toucherai pas loin de l'Éternel, celui sur lequel repose l'onction de Dieu. » Ce n'est pas à moi de le détruire, de prendre sa vie. Alors il va s'approcher en catimini, imaginez la scène, dans le noir, alors que Saül est occupé, et là il découpe un morceau de son vêtement discrètement, et il repart dans le noir. Et Saül descend de la montagne, rejoint son armée et s'apprête à partir. Et là, David sort devant la grotte et dit « Regarde Saül, j'aurais pu porter atteinte à ta vie. Et je ne l'ai pas fait. » Et Saül reconnaîtra que David l'a épargné. Alors lui demandera une seule chose, il dit « Voilà, je sais que tu es celui qui prendra la royauté. » Relisez 1 Samuel 24. C'est le préambule de ce psaume 57. Et il lui dit, je te demande une seule chose. Épargne ma lignée. Quand tu seras roi, épargne ceux qui sont de ma famille. Ne détruis pas. Tout à coup, prends un autre sens. Ne détruis pas. Ne porte pas atteinte. Hymne de David. Alors, le texte dit « hymne de David », et puis beaucoup de traducteurs disent, on peut dire à la fois « hymne de David » et « hymne pour David ». C'est la même lettre, « pour David ». C'est un hymne que David a certainement écrit. Il y a 73 psaumes qui sont attribués à David, de David. Et puis la Septante en a même rajouté 17, ou 12, 12 je crois, 12. 12 en disant ceux-là, ils sont vraiment de David. La moitié des psaumes de David, il l'a écrit certainement, mais il l'a aussi prononcé, dit comme une prière, parce qu'il est un homme dans la détresse, un homme qui est perdu, qui a perdu ses repères et qui crie à Dieu. En ce sens, il nous ressemble. Il te ressemble et il me ressemble dans les moments où je suis dans le doute, dans la peur, dans la crainte, dans l'interrogation. David est un homme comme moi qui crie à Dieu. Hein ? Hymne pour David, parce qu'il en avait besoin, c'est pour lui qu'il prie, c'est pour lui qu'il crie. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivie par Saül. Ah, on est là dans un écartèlement. Il fuit et il est dans un lieu sécure. Ça nous arrive aussi à nous, cet écartèlement de ressenti, de vécu. Avoir cette certitude que nous sommes en Christ et en même temps être dans la fuite de ce que l'adversaire cherche à faire en nous, dans notre vie. Un écartèlement de sens. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivie par Saül. On est au premier verset. Il y a plein de choses déjà dans ce premier verset. Cette introduction qui nous pose un petit peu le cadre de cette prière, de ce psaume qui suit. Et ce psaume est en deux parties. Il est en deux parties parce qu'il commence par une plainte et il se termine dans la louange. Et l'articulation de ce psaume se situe au verset 7. On termine la plainte. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Le psaume bascule à ce moment-là. Et si vous lisez attentivement le psaume, qu'est-ce que vous avez comme mot après « ils y sont tombés » ? Pause. Pause, on va prendre un petit café, on revient après. Non, ce n'est pas ça. Là, il y a une indication importante dans la lecture. L'auteur dit « là, on fait une pause ». Pas ailleurs. Vous verrez, il y a plusieurs endroits où il y a marqué le mot « pause ». Là, c'est une indication. C'est « arrête-toi et médite sur ce que je viens de te dire ». Et nous devrions, si vous avez écouté ma lecture en introduction, vous avez remarqué qu'au moment des pauses, je me suis arrêté. Non ? Ou vous avez dit « tiens, il a besoin de reprendre son souffle ». Non, je me suis arrêté parce que la parole me dit « arrête-toi là ». Prends le temps de méditer ce qui vient d'être dit, avant de passer à la partie suivante. Vous avez plusieurs temps de pause. Est-ce que nous avons cette lecture-là aussi ? Vous savez, c'est intéressant. On n'en parle jamais de ça. Comment lire l'Écriture ? Là, vous avez un Dieu qui dit, bon, là, tu viens de lire quelque chose, il va se passer quelque chose derrière, il va y avoir une clé qui va t'être donnée, mais déjà, est-ce que dans ta lecture, tu peux t'arrêter et méditer cette parole ? Là, maintenant, avant d'aller à l'étape suivante. Si vous lisez le psaume 57 en respectant les pauses, vous verrez qu'en faisant ces pauses et en méditant la partie que vous venez de lire, il vous sera bénéfique, avec l'aide du Saint-Esprit, de passer à l'étape suivante parce que vous aurez reçu, eu l'éclairage de ce qui permet de passer à l'étape suivante. Pause. Eh bien, lorsque ce verset 7 arrive, tous les commentateurs disent « c'est là que se produit le passage de la plainte à la louange. Parce que se plaindre, c'est du péché. Et il n'y a personne qui réagit. Se plaindre n'est pas du péché. Se plaindre est quelque chose de naturel. Il y a une légitimité à crier à Dieu et à se plaindre de ce que l'on vit. Je déteste les obsèques que l'on a souvent dans le monde évangélique où on essaye de bannir la douleur et la souffrance. La douleur et la souffrance, même de quelqu'un qui est en Christ, est pour moi légitime. Parce que c'est une séparation. Quand ma fille, qui est au fond de la salle, est partie pour Paris, la voiture était chargée, ma femme au volant, et puis moi je travaillais, et ma fille et ma femme étaient dans la voiture. J'ai vu la voiture partir dans notre rue. Ça a été un déchirement, un vrai déchirement. Pour moi, j'avais les larmes aux yeux parce que ma fille partait. Elle partait qu'à Paris, mais à 400 km. Je n'aurais plus sa voix en continuelle. Elle viendrait plus me casser les pieds dans mon bureau. Elle viendrait plus me donner des plaisanteries au moment où j'en avais pas besoin ou de m'en donner quand j'en avais besoin. Tout cela. Quand on est dans le deuil, c'est la même chose. Se séparer, même si on sait qu'on retrouvera l'autre. La plainte est légitime. C'est le psaume 102 qui dit « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière !» La plainte est légitime. David est un homme de foi. Il n'empêche que si vous relisez tous les psaumes de David, combien de temps passe-t-il à se plaindre de ce qu'il vit, de ce qu'il ne comprend pas ? Dieu ne nous condamne pas de nous plaindre. Après, c'est comment Dieu va répondre. Et quel chemin faisons-nous avec Dieu pour que de notre plainte, nous puissions recevoir la lumière de l'Esprit pour vivre autre chose, savoir quel pas accomplir, quel changement apporter dans notre vie. Elle est là. La plainte n'est que le début d'un chemin, d'un ressenti qui est légitime. Dieu ne juge pas nos plaintes en nous disant « Mais arrête de pleurer, de te lamenter !» De la plainte à la louange, au fond de la grotte, de l'abîme. Peut-être que certains d'entre vous ce matin sont avec ce sentiment « Moi je suis bien au fond de la grotte. » Alors David est là ou Christ est là ? Je suis bien au fond de la grotte et je ne sais pas comment sortir de cet environnement sombre. Bien sûr, je sais que Christ est là, je suis en sécurité. Mais est-ce que j'ai envie de vivre toute ma vie dans une grotte, enfermé dans mes peurs, dans mes traumatismes, dans les violences que j'ai pu vivre ou traverser, dans les choix peut-être que j'ai faits et qui m'ont éloigné de Dieu. Quelles que soient les raisons pour lesquelles je suis dans cette grotte-là, est-ce que j'ai envie d'y rester ? Et Saint Augustin disait, en parlant du psaume 57, qu'il était semblable à la grotte dans laquelle Christ a été enseveli, vous savez, au bout de 3 jours. La grotte était ouverte et il était ressuscité. La plainte qui monte de nos cœurs et de nos vies est légitime et Dieu non seulement peut l'entendre, mais Dieu veut l'entendre. Il n'y a rien de plus insupportable pour un père que de voir son enfant dans la souffrance, mais sans dire sa plainte et sa douleur. Et Dieu est dans cette situation. Dis-moi ce qui te fait souffrir. Même si tu te mets en colère, relisons le livre de Job. Job, c'est plusieurs dizaines de chapitres où il manifeste sa plainte et sa colère jusqu'à ce qu'il découvre qu'était le chemin pour sortir de sa souffrance. Le verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car c'est en toi que mon âme se réfugie. Eh bien, une répétition, « Aie pitié de moi » à deux reprises pour dire à quel point sa souffrance est grande. Vous savez, quand est-ce qu'on peut aider quelqu'un? Quand ce quelqu'un trouve que sa situation est devenue insupportable. Pour les malades alcooliques, les toxicomanes, on ne peut rien faire tant que le malade alcoolique ou le toxicomane ne dit pas à un moment donné « J'en ai assez !» Je ne veux plus de cela. Je ne veux plus vivre cette souffrance. À ce moment-là, la recherche de l'aide devient possible et l'accompagnement est aussi possible. Et c'est ce que Dieu attend aussi de nous. Que nous nous plaignons est une chose. Mais est-ce qu'à un moment donné, nous sommes dans une situation tellement inconfortable, tellement insupportable que nous puissions dire « J'en ai assez, Seigneur, maintenant !» Il y a un an, j'avais des problématiques de rein, j'ai passé une nuit où je suis resté debout à souffrir avant d'être hospitalisé. Et le médecin qui m'a reçu m'a dit, vous savez, ce que vous avez, c'est, en termes d'intensité, c'est les douleurs de l'accouchement pour une femme. Merci Seigneur que je sois un homme. Parce que je me serais arrêté à la première naissance. J'en aurais pas fait trois. Francine, je me serais arrêté. Je suis désolé Elisabeth. Merci Seigneur. Mais en avoir assez, dire à Dieu, ça suffit. C'est à l'ombre de tes ailes que je me réfugie. C'est une image que l'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament, celle de l'oiseau qui recouvre ses petits et qui les protège jusqu'à ce que les calamités soient passées. Parce que les calamités vont passer. Je ne sais pas comment aujourd'hui, et je ne vais pas te dire comment elles passeront dans ta vie. C'est trop facile. Je me méfie aussi de ces responsables d'église qui disent « Assieds-toi devant, on va prier. » Et une fois qu'on a prié, tu vois, « Amen, le Seigneur a répondu, tu es sorti de la souffrance. » Non, bien souvent, les souffrances continuent. Mais c'est comment on accompagne l'autre à demeurer, à grandir dans la présence, sous les ailes, avoir cette conscience que je suis gardé, protégé, entouré, tel que je suis. Et comment cette présence-là, cette protection de Dieu va rassurer mon âme. Va rassurer mon âme. Je crie au Dieu, au Très-Haut, à Dieu qui achève tout pour moi. J'aime ce verset 3. À Dieu qui achève tout pour moi. Dans Philippiens 1, 6, l'espérance donne naissance à la prière, dit Calvin en parlant de ce verset. Il n'est pas possible que ceux qui espèrent en Dieu ne lui adressent pas des prières. Parce que Dieu achève tout en moi. Il mène à achèvement l'œuvre qu'il veut accomplir. De guérison. De guérison. Il veut déposer en moi une espérance ferme et sûre. Je crie au Dieu très haut, à Dieu qui achève tout pour moi. Dans ce psaume-là, alors que c'est Elohim qui est souvent utilisé, c'est Yahvé qui intervient. C'est-à-dire cette révélation d'un Dieu qui dit « Je suis celui qui est pour toi maintenant ». Il enverra des cieux et me sauvera, il enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur. Et c'est là qu'est la pause. Il enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Pause. Pause. Dans le texte original, il y a la pause. Je ne sais pas si vous l'avez là. Verset 4. Voilà. Là, vous ne l'avez même pas, la pause. Pause. Alors, il y a un décalage parfois de versets. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, pause. Il y est, c'est bien. Alors. S'il y est, c'est bien. Pause. On s'arrête là. Et on réfléchit. Vous faites cela quand vous lisez l'Écriture? Si l'Écriture vous dit « arrête-toi », réfléchis à ce qu'il vient de dire. Et une fois que la pause est faite, tandis qu'il m'enverra du ciel le salut, est-ce que nous n'avons pas, contrairement à David ou au peuple juif, cette révélation du salut qui est descendu du ciel? Y a-t-il une autre porte? Il y a-t-il un autre homme? Une autre création, une autre créature qui pourrait m'apporter le salut dans ce que je vis? Non. Dieu, là où tu es, t'envoie le salut du ciel. Christ se trouve là, donné pour toi, pour te donner le salut. Et comme le dit le verset 3, ce qu'il a commencé, c'est ce que Paul dit aux Philippiens, il l'achèvera. Verset 6, 5. Ah oui, verset 4 qui se termine quand même, après la pause, par ce tout petit verset. Et ce n'est pas rien. Après la pause, on s'est arrêté. Du ciel est venu celui qui est envoyé par Dieu. Même si le persécuteur continue. Il n'est pas dit que le persécuteur, il se dit, tiens, je vais m'en aller, je vais le laisser tranquille. Non, la persécution continue. Les difficultés sont toujours présentes. Mais Dieu m'envoie du ciel celui qui va répondre à mes besoins, rassurer mon cœur. Et la fin du verset 4, c'est « Dieu enverra sa bonté, sa fidélité. » Chesed et Met. Deux termes, fidélité et bonté. Bonté et fidélité, qui sont le don de Dieu. Rappelez-vous l'histoire de Ruth qui est axée là-dessus, sur la fidélité et la bonté. Dieu veut faire preuve vis-à-vis de toi et de moi de fidélité, de bonté. Est-ce que tu es prêt à te réfugier en lui, à voir ce salut qui est envoyé du ciel? Et puis le verset 5 montre « Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dans la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant. » On est sur le verset 5 qui montre dans quelle situation on est. Avez-vous vu que les ennemis ici, tout ce qui est représenté par des armes, c'est ce qui sort de la bouche. Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, dont la langue est un glaive tranchant. Ah ! Est-ce que vous avez été victime de ces paroles qui ont cassé, détruit, blessé, meurtri votre vie ? Est-ce que vous avez entendu des paroles qui étaient là pour vous casser, vous abîmer, vous enlever votre confiance en vous-même ? Est-ce que vous avez entendu ces paroles là dans votre vie et vous les avez reçues comme des paroles ? Et vous avez laissé cette œuvre-là peut-être aussi se faire, sans savoir comment vous pouviez faire autrement. On est toujours dans la plainte. J'en ai assez, Seigneur, de ces paroles qui sont entrées dans ma vie et qui ont brisé qui j'étais, ce que je suis. Ce psaume, une des particularités, c'est que le « je » y est toujours présent face à Dieu. Je. J'en ai assez, je veux autre chose, je m'attends à toi. Je est au centre de ce psaume. C'est la règle du je qui s'impose pour David. Je. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Si vous regardez ce psaume-là, vous retrouvez ce verset-là à la fois au verset 6 et à la fois au verset 12. Ça veut dire que quand ce verset se répète, il marque une césure dans le psaume. On arrive à la fin des plaintes. Le verset 6 dit « Maintenant, on va passer à autre chose. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Et le verset 7, on a l'impression qu'il continue les plaintes parce que « Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi. » Ouais, sauf que le verset se termine par « Ils y sont tombés. » C'est-à-dire que l'œuvre qu'il voulait accomplir s'est retournée contre eux, mais pas contre moi. Et qu'est-ce qu'il y a après ? Ils y sont tombés. Pause. Relisez ce psaume et faites les pauses en réfléchissant à ce que vous venez de lire, de dire à Dieu. Ils y sont tombés. Et après la pause commence la louange et l'adoration. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Waouh ! Il va vite, David. Il est au fond de sa grotte, il est abattu, il se plaint des ennemis qui sont là. Et au moment où il proclame tout ce qui est fait contre moi, finalement les ennemis vont tomber dedans. Il passe aussitôt à mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Une répétition comme au verset 1, 2. « Aie pitié de moi, mon Dieu, aie pitié de moi. » Là, il dit de la même manière, comme une manière de le proclamer à son âme, « Mon cœur est affermi, mon cœur est affermi, je chanterai. » Je vais m'arrêter là. Simplement, verset 9, « Réveille-toi, mon âme. » Vous êtes réveillé? Est-ce que vous avez réveillé votre âme ce matin? Est-ce que la parole de Dieu vous a touché ou vous a parlé ce matin? Est-ce que vous croyez que si je ne suis pas là et que vous ouvrez ce psaume 56 cette semaine, Dieu peut vous parler? Est-ce que vous croyez que la lecture de la parole de Dieu, de ce psaume, peut vous faire du bien? Amen. J'ai ma petite fille, Irine, j'ai découvert ça, qui a été mise en crèche à Lille, une crèche assez étonnante. Ils appliquent des techniques très étonnantes. Par exemple, ils donnent à manger aux enfants tout dans la même assiette. Je dirais, il y a de l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Et l'enfant mange comme il veut. Ce qui est très étonnant, c'est que j'ai une petite fille, elle mange de tout. De tout. Par curiosité, elle a pioché. Et du coup, maintenant, elle peut manger du chou, des pâtes, des carottes. Et elle aime tout. Elle aime. Est-ce que lorsque nous découvrons l'écriture comme ça, on peut se dire, tiens, oh, j'aime finalement cette parole, elle me fait du bien. Alors vous savez, avant qu'elle parle, dans la crèche, ils leur ont appris le langage des signes. Avant qu'elle parle. Parce qu'ils se disent finalement, les enfants, ils peuvent communiquer avant de parler. Il faut juste leur donner les outils. Alors ils ont appris, leur donné, et avant, bien avant, des mois avant qu'elle ne parle et prononce les premiers mots, elle parlait en langage des signes. Nous, on a dû s'adapter parce que changer les couches, ce n'était pas évident pour nous quand elle nous le disait. Hein. Mais il y a un signe que j'ai retenu. Et vous savez, mettez votre main comme ça. Allez, mettez votre main. Allez. Je ne vais pas vous faire danser. Alors, hein. Prenez l'autre main avec un doigt comme ça. Comme ça. Et vous faites comme ça. Hein? Mais déjà, faites ça. Comme ça. Vous savez ce que ça veut dire? Encore. 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 Est-ce que ce que vous avez découvert de l'écriture dans ce psaume, vous allez dire à Dieu? Encore, Seigneur, parle-moi, fais-moi du bien. Le psalmiste au verset 9, David dit, « Je réveillerai l'aurore. » C'est l'aurore. Ça veut dire que quelque part, j'ai tellement vécu quelque chose de formidable alors que j'étais dans ma grotte avec toi, que je vais sortir et je vais proclamer ta louange, je vais prendre mes instruments, je vais louer ton nom, etc. Parce que là, il y a quelque chose de formidable. Et je vais même le faire avant que le soleil se lève. Je réveillerai l'aurore. L'aurore sera réveillée par ma louange et mon adoration. Tellement ce que j'ai vécu est fort et grand et bon. Demain matin, avant le lever du soleil, encore, Seigneur? Encore, parle-moi encore, Seigneur. Donne-moi le plaisir d'ouvrir ta parole et d'y découvrir ton amour et ta grâce. Amen.